Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Florence Lautredoux. Bonjour Florence Lautredoux.
Bonjour Yannick.
Quel bonheur de vous recevoir, de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes normalienne, vous êtes agrégée de l'aide moderne, vous êtes psychanalyste, vous êtes coach en entreprise, vous avez déjà publié plusieurs grands succès de librairie. On vous connaît, Florence, pour vos nombreuses interventions médiatiques aussi, toujours très demandées. Alors, quand on analyse, on va parler de votre nouveau livre, « La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves ». C'est le prétexte d'une fiction témoignage pour nous emmener vers une réflexion. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Voilà, c'est ce que. Si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous me contredirez, chère Florence Lautredoux. Mais d'abord, quand on parle de psychanalyse, de coach, tous ces mots coulent à flot dans la presse magazine, dans les médias. Tout le monde s'improvise ceci, cela, avec le mot peu, thérapeute, coach ceci. Les livres de développement personnel explosent dans les librairies. Et il me semble qu'il y avait quand même dans votre nouveau livre, avant d'aller sur le fond de ce livre, « La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves », qui est publié chez Odile Jacob, il y a quand même quelques pointes, quelques pics que vous lancez contre tout ce qui est développement personnel et contre tous ces faux coachs.
Vous le soulignez effectivement, contre tout ce qui est volontariste. Alors c'est vrai que même si le niveau de conscience ou le niveau d'éveil psychologique de la population a augmenté, puisque les gens ont développé leur connaissance globale dans ce domaine-là, ce n'est pas la même chose que de s'improviser effectivement vraiment thérapeute, vraiment psychanalyste, vraiment coach. Et on le voit parce que c'est pas par la volonté qu'on y arrive, c'est par l'expérience, le travail et les fondements.
Les métiers du développement personnel ont jeté leur dévolu sur le quantique, donc le magique, à savoir la spiritualité. Et là, vous dites ça en opposition à votre métier qui est considéré plus comme une scientifique, alors que dans beaucoup votre réflexion dans ce livre, il y a des références à la spiritualité.
Oui, parce que la spiritualité, elle est partout autour de nous. Enfin, même le miracle que notre corps soit en vie, c'est déjà de la spiritualité. Plein de choses sont miraculeuses ou magiques. Mais effectivement, ce que je trouve comique, sinon parfois un peu triste ou pathétique, c'est l'utilisation forcée de la physique quantique, voire des neurosciences, mais plaqué sur une réalité psychologique alors qu'il n'y a pas d'évidence scientifique. Voilà, mais là c'est une petite pique que je lance parce qu'effectivement la physique quantique ou se prévaloir d'une approche de physique quantique en psychologie, ça donne tout de suite un caractère scientifique, mais il n'y a rien de démontré dans la plupart des cas. Donc si c'est démontré, moi je veux bien, mais comme c'est rarement démontré, c'est juste une prétention scientifique.
Peut-on parler de scientifique, de prétention scientifique, même dans votre métier, alors qu'on sait que nous sommes à l'aube, finalement, nous sommes un peu dans les prémices la compréhension de notre complexité humaine, de notre cerveau.
Alors, il peut y avoir prétention quand on parle de ce qu'on ne connaît pas. En revanche, il y a des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en physique quantique qui s'intéressent à ces phénomènes de rapprochement entre certaines capacités extrasensorielles et la science. En revanche, ces personnes-là savent en parler. Là, ce sur quoi j'ironise, c'est même des gens comme moi qui, quelque part, peuvent parfois avoir des métaphores scientifiques, pourquoi pas, mais de là à prétendre avoir une réalité scientifique derrière, il n'y en a pas. Ce sont des univers mystérieux à explorer, tout comme le rêve d'ailleurs.
Votre nouveau livre est particulier, Florence Lautredoux, La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, puisque comme je l'ai dit en introduction, vous nous invitez à réfléchir sur le rêve.
Ouais, c'est très original. C'est original et en même temps essentiel. Vous savez, les Cherokees disent « un homme qui ne se rappelle plus de ses rêves est un homme perdu ». Sous-entendu, un poulet sans tête ou quelqu'un qui perd sa boussole, sa guidance. Dans certaines civilisations, ou certaines cultures, ou certaines philosophies, ou certaines spiritualités, je pensionnerais par exemple les chamans ou le bouddhisme, les rêves sont clés pour arriver à, je dirais pas piloter sa vie, mais recevoir toutes les guidances nécessaires pour mener une bonne vie.
Le rêve, est-ce que c'est finalement une manière de clarifier des projets comme des départs, des créations, des déménagements, où on ne peut pas tirer finalement d'enseignement.
Alors, ça repose sur l'analyse, mais on sent. Parfois, on a des rêves qui sont vraiment... Voilà, il peut y avoir des rêves...
On ne les contrôle pas, ces rêves.
Ah, mais non, on ne les contrôle pas. C'est pour ça que ce n'est pas volontariste. Personne ne peut se forcer en disant, bon, allez, ce soir, j'ai besoin de savoir si oui ou non, je dois déménager. Ou si oui ou non, je dois quitter mon mari. Ou si oui ou non, je dois accepter cette offre professionnelle. En fait, ça ne se décrète pas. En revanche, on peut poser la question et peut-être... Bonus, cadeau, miracle, recevoir un rêve. Et puis il y a des rêves qui, je dirais pas, ne veulent rien dire, mais qui sont des rêves de défoulement, qui sont, vous avez faim, vous rêvez que vous mangez, bref, tout besoin naturel assouvi dans son rêve, pourquoi pas. Et puis parfois il y a des rêves de guidance plus puissants, et on les sent ceux-là. Là on sent qu'on a un message.
Vous avez cité cette phrase des Cherokee, un homme qui ne se rappelle pas de ses rêves est un homme perdu. Est-ce que la perte de rêve est quelque chose de civilisationnel lié au 20e, 21e siècle? Ou est-ce que l'on rêve moins finalement? Ou peut-être est-il difficile de le savoir? Est-ce qu'il y a une littérature qui parle où les gens rêvaient normalement et peut-être beaucoup plus il y a quelques siècles?
Alors c'est intéressant parce que je pense que le phénomène du rêve qui arrive en deuxième partie de cycle, en sommeil paradoxal, on rêve tous, sinon je crois qu'on deviendrait fou. Il y a juste quelques sinistres médecins au Troisième Reich qui avaient essayé d'arrêter les rêves des gens ou de les empêcher de rêver et ils devenaient déments. Donc on voit bien qu'on rêve tous. En revanche, ce qui est différent, c'est le fait de s'en rappeler, enfin de se les rappeler, pardon, de s'en souvenir. Parce que la vie moderne, dans son rythme accéléré, a entraîné, et ça c'est une perte de temps de sommeil. Ça on le sait, c'est chiffré, on a perdu en moyenne depuis 50 ans, on a perdu une heure de sommeil. Donc, ça ne favorise pas la remémoration des rêves. Puis il y a aussi autre chose, ou la mémorisation des rêves. Il y a aussi autre chose, c'est qu'avant, à mon grand étonnement, j'ai lu évidemment beaucoup de livres sur le sommeil, indépendamment de ce que j'ai pu lire sur les rêves, mais on dormait de façon biphasée. C'est-à-dire que les gens se réveillaient vers minuit, avaient une première temps de sommeil, se réveillaient vers minuit, parfois cassaient une petite croûte, discutaient, je sais pas, faisaient l'amour, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais enfin en tout cas, ils passaient un moment plutôt sympathique. Et se recouchait pour après une heure ou deux heures. Donc c'est clair que ce genre de sommeil peut favoriser les rêves, puisqu'il y a des phases de sommeil qui s'achèvent avec des cycles, et donc il y a un réveil forcé. Donc, oui.
Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet?
J'adore les rêves, parce que je trouve que c'est le moment le plus sexy du monde, on ne sait pas ce qui va se passer, on se réveille le matin, on se dit « mais c'est pas possible ». Et moi j'ai eu des rêves puissants, j'ai eu des rêves de guidance sur tous les thèmes dont je vous ai parlé. J'ai su quand je devais quitter un pays, j'ai su quand je devais quitter un compagnon, et j'ai su quand je devais quitter un travail. J'ai aussi su quel travail je devais prendre. J'ai eu des rêves très symboliques. J'ai eu des rêves où j'ai vu une personne profondément aimée dans mon rêve, donc un défunt, me parler. Voilà, pour moi les rêves sont très importants. Et le point de départ, c'est que justement, la femme qui se souvenait plus de ses rêves, c'est aussi un peu moi, même si évidemment ce n'est pas que moi l'héroïne, mais je me rappelais plus de mes rêves. Et j'avais vraiment le sentiment d'être dévitalisée. Je n'arrivais pas à m'en souvenir. J'ai l'impression de vivre. Chaque nuit, c'était une espèce de je n'avais pas de tombeau, mais ça ressemblait un peu à ça. Je sombrais, je me réveillais le matin et ça repartait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais où est la magie? Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger, à suivre des séminaires auprès de chamans sur les rêves, faire des retraites bouddhistes sur les rêves, à lire moult livres sur les rêves et à m'interroger sur mes propres rêves. Et ils sont petit à petit revenus.
Alors Florence Lautredou, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez vous-même vous avez eu cette réflexion sur les rêves, mais qu'est-ce qui vous a incité aussi à la rendre publique? Puisque vous dites que c'est aujourd'hui tabou. On vous connaît dans les médias, on vous voit dans vos livres, on vous fait, voilà, sur des sujets comme le travail, le stress, l'anxiété, les rapports de couple, les rapports hommes-femmes, etc. Le rêve, finalement, vous êtes une femme intelligente, très maligne, mais vous savez bien qu'au départ, vous êtes dit, c'est pas le thème le plus vendeur.
Pour moi, c'est le thème le plus sexy. Donc,
j'ai dit vendeur.
Je sais, mais on sait bien que ça, le sexy fait vendre. C'est le thème qui me passionnait. Moi, j'écris sur les choses qui me passionnent. Et en plus, je considère que le rêve est d'utilité publique. Enfin, c'est un sujet majeur. Plus que le sommeil. Le sommeil sert à réparer nos structures cérébrales.
Bah, s'il y a rêve, c'est qu'il y a sommeil.
Oui, déjà, il faut d'abord qu'il y ait sommeil. Mais ensuite, le rêve, c'est le bonus. Le rêve, c'est la guidance. C'est la guidance de votre inconscient. Les Jungiens vous diront, c'est la guidance du grand soi, c'est-à-dire une espèce d'intelligence encore plus pure. Les mystiques vous diront, c'est là où les anges vous parlent. Il y a plus de 14 références à des messages d'anges dans la Bible. D'autres vous diront, c'est la plateforme qui permet de parler à ceux partis de l'autre côté, c'est-à-dire les défunts, puisqu'ils peuvent nous rejoindre dans les rêves. Enfin, il y a beaucoup de pistes possibles. Et puis il y a d'autres qui vous diront, c'est juste un endroit où je fais des expériences extraordinaires. Je vole, j'envoie des coups de poing à mon patron, je m'amuse beaucoup, quoi, en fait. Chacun le situe où il veut. Mais pour moi, c'est, je dirais pas une terra incognita, mais c'est un espace d'aventure extraordinaire. Et alors, pour le coup, c'est donné à tout le monde, en tout cas à tous ceux que ça intéresse.
Les riches comme pauvres ont rêve.
Ah, c'est clair. Voir peut-être les. Justement, ça se fie de l'ordre social, des possessions, dans la mesure où plus on est préoccupé, c'est-à-dire il y a de l'occupation à l'intérieur de la tête avec du stress, moins on se rappelle de ses rêves. Donc on peut
c'est
imaginer
intéressant
que.
Ce que vous dites.
Ah oui, c'est presque révolutionnaire le rêve. Les premiers seront les derniers, ou en tout cas ceux qui sont beaucoup dans la matière, dans l'occupation, dans le stress de l'activité, dans le stress de gérer son argent, d'anticiper ce qui peut arriver, enfin bref, ce qui arrive avec effectivement une profusion de matière. Ce stress-là ou ces activités-là peuvent être inversement proportionnels à la qualité et la quantité de rêves dont ils se souviennent. Et l'autre, qui a plus de temps, plus de disponibilité, plus de moelleux, comme j'aime à dire, eh ben, dans sa vie, il se rappelle peut-être plus de ses rêves.
Et vos patients, ils vous parlent parfois de vos rêves ? Ça fait partie des sujets de conversation.
Ah, mais j'adore, et même en coaching, ils m'en parlent. Ils ne m'en parlent pas tout le temps. Pareil, on sent très bien quand un rêve peut vous parler ou pas. Parfois, il y en a qui me disent, tiens, c'est marrant, j'ai le sentiment que ce rêve me dit quelque chose par rapport à ma question, ma réflexion. Moi, j'adore quand ils m'en parlent. C'est une grande marque de confiance.
D'ailleurs, quand on veut séduire quelqu'un, le plan de drague classique, c'est « j'ai rêvé de toi, j'arrête pas de rêver de toi », même si c'est pas vrai. Et ça fait plaisir.
Il faut juste préciser ce qui se passe derrière, parce que ça peut être stressant. Quelqu'un qui vous dit qu'il a rêvé de vous, oui, dans quelle situation, dans quelle tenue, quelle activité, enfin bon.
Ah non, j'avais pas l'esprit déplacé, non, j'étais pas allé à ce point-là.
Ah, vous étiez vraiment romantique ?
Oui, j'étais vraiment dans le romantisme.
Oh, c'est trop mignon.
Non, j'étais vraiment dans le romantisme, j'étais pas avec l'esprit des...
D'accord, mais oui, bah oui, j'ai rêvé d'elle, oui, mais pas au sens...
Oui, de la chanson.
De la chanson, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est l'expression d'un désir. Hein, ça. Alors là, pour le coup, c'est Freud, à l'interprétation des rêves, c'était quand même un des premiers à avoir, entre guillemets, recherché sur ces sujets-là. Alors depuis, les réflexions, la science a évolué. Mais effectivement, le rêve de désir ou le rêve cathartique sont les premiers rêves. Enfin, voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que vous le soulignez dans votre livre, Laurence Lautredoux, on se sent dépressif par l'absence de rêve.
C'est clair.
Alors, on ne le sait pas, ça. On n'est pas bien, on est peut-être un peu dépressif, mais on ne sait pas que c'est lié à l'absence de rêve.
On est lourd. On est dans la matière. On est dans la réalité. Et la réalité n'est pas toujours follement excitante quand on n'est pas justement alimenté par ce que j'appelle le spiritus, l'âme, les petits éclairs de compréhension. Et parfois... il y a moins de repos parce qu'une personne qui ne se rappelle pas de ses rêves est souvent une personne très préoccupée. Donc je pense qu'elle a un sommeil réparateur, au sens, moi j'aime bien dire industrial sleep, c'est-à-dire on répare les boulons, on met tout en place, on vérifie que les circuits neuronaux fonctionnent, enfin le corps est en bon état, quoi. C'est une espèce de vague chantier de réparation. Mais le côté moelleux en plus du rêve, on ne l'a plus. Donc forcément, on est réparé, prêt à repartir, tel un bon petit robot bien mis en place, mais il manque la guidance. Donc forcément, ça rend, sinon dépressif, du moins un peu plus terne ou sans couleur, quoi. Ça dévitalise petit à petit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ainsi que je l'ai ressenti, cette période sans me rappeler de mes rêves.
Comment éviter que les rêves soient une sorte de mauvais ami, avec des mauvais conseils? Vous avez dit, par exemple, j'ai su, alors maintenant quelqu'un va vous écouter, quelqu'un, par exemple, se pose des questions, s'il doit quitter son job ou pas, il se pose des questions, il va faire un rêve, il n'y a rien à voir avec je ne sais pas, du sombre et tout, il va dire, lui-même va se faire son auto-interprétation en disant, j'ai rêvé sombre, donc il faut que je la quitte, ou il faut que je quitte mon compagnon. Voilà. Comment éviter de tomber dans...
Je pense en parler à une personne qui peut les aider, parce que ça n'a rien à voir avec un dictionnaire des rêves qui là encore est peut-être une forme d'absurdité, mais effectivement c'est polysémique un rêve, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sens possibles, Et bien évidemment, on est tous très doués pour arriver à tirer un rêve dans le sens qui serait notre désir principal. Donc en fait, discuter avec quelqu'un, un thérapeute qui vous aide à trouver le sens par rapport à ce que vous ressentez, comment vous vous réveillez. Parce que on peut avoir des rêves, mais le ressenti compte énormément. C'est-à-dire, on peut faire un rêve justement où on quitte son conjoint, mais on est très angoissé dans le rêve, on se réveille extrêmement angoissé. Ce n'est pas forcément une indication qu'il est important de le quitter. Justement, le ressenti du réveil montre qu'il y a une tension, une peur. Donc, on peut creuser au-delà de ça. Puis après, si on veut vraiment analyser un rêve, ce qui est intéressant, c'est de... c'est ce que font déjà d'ailleurs tous les psychanalystes, enfin de qualité, c'est creuser les motifs, voir en quoi il résonne dans la vie de la personne, ce qu'il lui évoque. Tiens, elle a vu telle personne. Au moment où elle rêvait qu'elle quittait par exemple son conjoint ou il quittait sa femme, il a croisé telle personne. Telle personne, c'est, je ne sais pas quoi, un collègue qu'il a connu dans son travail et ce collègue a quitté sa femme qui ensuite a fait un suicide ou choses comme ça. Enfin, chaque personne a des motifs autour d'elle qui donnent des indications si ce motif-là est plutôt favorable ou défavorable. Donc vous voyez, c'est toute une lecture et généralement, il vaut mieux le faire à deux. De toute façon, même sans thérapie, moi je trouve que, et c'est aussi ça que je prône et que j'adorerais voir se réaliser avec ce livre, c'est que les gens, les couples, les familles se racontent leurs rêves au petit déjeuner. Ce serait quand même bien rigolo tout ça. Vous voyez, ce serait une bonne manière de démarrer la journée.
Je lis aussi à un moment cette réflexion que vous faites, que l'héroïne fait, pas vous. La nuit permet de réfléchir. Donc je comprends que la différence entre le rêve et la réflexion, c'est que la réflexion pilote la télécommande de son programme. Avant de m'endormir, je me dis, je veux réfléchir si je veux changer la couleur de mon produit, si je veux recruter, si je veux démissionner. Je veux réfléchir à cela. J'ai un problème, c'est moi qui pilote. Le rêve, c'est quelque chose d'autre qui vient. Là, vous n'êtes pas maître du scénario.
C'est rebelle.
Alors là, sur la nuit et la réflexion, c'est essentiel. Dès que j'ai une grosse catastrophe ou quelque chose, je m'énerve jamais, j'attends, je prends jamais la décision avant une nuit. Oui. Et le matin au café, on se sent mieux.
Vous dormez dessus.
On se sent mieux après.
Ah mais oui, forcément.
Ça permet de faire avancer.
Les Américains le disent, ils disent toujours I sleep on it, better sleep on it, dormez dessus. Bien sûr. Et souvent, c'est pas tellement le fait de s'être reposé.
Si vous savez pas trop, je suis sûr, vous le faites aussi. Vous attendez le lendemain.
Claire.
Vous dites, je vais te donner la réponse demain.
Oui, bien sûr. Et souvent, on a une guidance. Et parfois, on ne sait pas que c'est lié à un rêve. Il y a aussi ça. Il y a parfois les rêves qui laissent leur empreinte sans qu'on se les rappelle. On a juste une évidence qu'il faut aller dans telle ou telle direction. Et ça peut être l'empreinte du rêve. Moi, j'aime bien ce côté rebelle. En fait, on peut pas prévoir. Il vient ou il vient pas. Et ce qu'il nous dit, ça le regarde.
Vous êtes thérapeute, je l'ai rappelé au début, Florence Lautredoux, vous travaillez sur les rêves en ce moment, c'est l'objet de votre dernier livre, La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, c'est publié chez Odile Jacob. Alors Florence, vous rappelez un moment, les thérapeutes sont une secte juive qui vivait dans le désert d'Égypte, hommes et femmes séparés au service des écritures et de la contemplation.
Oui.
Ça va loin finalement, c'était la médecine de l'âme en quelque sorte,
mais
et
bien
ça
sûr.
L'est toujours.
On y revient et je trouve ça essentiel. Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais thérapeute, finalement, ça vient d'où ? Et quand on regarde, c'était au départ des personnes qui d'abord se vouaient au salut et au bien-être des autres.
Le mot thérapeute, est-ce qu'il est réglementé ?
Oui, bien sûr, il est réglementé.
Bon, bah, y a beaucoup de gens alors, qui emploient pas ce mot, qui mettent des mots proches pour faire croire.
Oui, bon, en fait...
Non, mais c'est grave. Si on croit que c'est sérieux...
Enfin, c'est les psychothérapeutes qui sont réglementés, parce que ceux-là ont fait un diplôme de psychologie à la fac, donc ils sont psychothérapeutes. Ouais. Tous les autres sont thérapeutes. Thérapeute, vous pouvez être sophrologue, vous pouvez être magnétiseur, vous pouvez être PNListe, vous pouvez être gestaltiste.
On ne peut pas dire que je suis psychanalyste.
Ah non, psychanalyste, c'est réglementé par des écoles.
Bien sûr, Florence. Donc, c'est là où c'est grave. Soit on croit que ce n'est pas sérieux, et que c'est n'importe quoi. Donc, dans ces conditions, tous les charlatans peuvent faire, peu importe, ça n'a aucune incidence. Si on croit vraiment, et je fais référence à cette, comme vous le dites, ça remonte à des millénaires, puisqu'il y avait même une secte juive, donc bien avant Jésus-Christ, que cette médecine de l'âme, de la même manière qu'il y a une médecine du corps humain, si la médecine du corps humain, je me prétends médecin, et je dis, je vais t'opérer pour le truc, et je recouds mal, etc., vous voyez bien, là, ça pisse le sang, et la personne meurt, hein, les dégâts sont évidents. Mais thérapeute, on peut peut-être faire autant de dégâts. Eh ben voilà, c'est là où je veux venir. À la personne avec qui on est.
Bien sûr. tous les métiers. Hein. Coiffeur, ça marche pareil. Hein.
Oui, mais c'est moins grave.
Non, mais ça repousse, oui, je suis d'accord.
Oui, ça repousse, franchement. Ouais. Voilà, c'est moins grave.
Ouais, c'est vrai, bien sûr, ce sont...
Je parle du cerveau, de là, parce qu'il y a des thérapeutes qui vous retournent, enfin des thérapeutes, ils trouvent les mots, là, il y a plein de plaques un peu partout. Mmh. Ils vous retournent le cerveau, hein, de certaines personnes. Certaines personnes un peu paumées.
Une emprise, bien sûr. Oui, ça existe.
Oui. Ça vous retourne le cerveau. C'était mon coup de gueule. Il y a des références à Jésus, à la spiritualité, à travers les rêves aussi, dans votre livre sur les rêves.
Eh oui, parce que c'est important. Comme on en parle beaucoup dans la Bible des rêves. Il y a beaucoup de rêves. Quand Marie, l'ange Gabriel, lui annonce qu'elle va être enceinte et qu'elle n'a pas connu d'homme, au sens biblique, c'est un rêve. Il y a énormément de rêves qui annoncent des choses, des bonnes, des mauvaises nouvelles. Ils le savaient bien, et puis même c'est très ancien. En Grèce antique, c'était Esculape, le dieu de la médecine, les gens venaient et attendaient un rêve, venaient se mettre près du temple, attendaient à Épidore, attendaient un rêve, le rêve allait leur dire s'ils allaient guérir ou pas, comment ils allaient guérir. En fait, la notion d'une aide divine qui viendrait par les rêves, elle est très ancienne, elle est bien antérieure à Jésus.
Le corps est composé d'eau, il représente les émotions. Mmh. C'est intéressant ça. Puisqu'on est, composé d'eau...
Deux tiers, à peu près, puis ouais, plus dans le cerveau. Il y a encore plus d'eau dans le cerveau. Chez certains, d'ailleurs, il y en a énormément.
Ça représente les émotions. Vous savez qu'il y a eu des travaux sur la mémoire de l'eau, par exemple.
Emoto, voilà. Oui, tout à fait. Et les travaux du japonais.
Les travaux sur la mémoire de l'eau. On se dit, l'eau, c'est rien, l'eau, c'est de l'eau. Et pourtant, on voit que l'eau réagit parfois différemment. Il y a même un goût d'eau, un goût.
C'est vrai.
Et on est dans quelque chose que l'on ne connaît pas encore.
Non, même si les travaux s'appellent effectivement Emoto, ce scientifique japonais, ces travaux ont été contestés par certains scientifiques sur des motifs que moi je ne pourrais pas discuter. Mais il est vrai qu'en mettant des bacs d'eau, des bocaux d'eau, et en mettant des phrases ou des mots, des étiquettes avec amour, douceur, ou bien haine, colère, on a vu que les cristaux d'eau se modifiaient. Vraiment, ils devenaient totalement désordonnés quand les mots étaient négatifs, et restaient harmonieux quand les mots étaient positifs. Et nous-mêmes étant composés d'eau, on peut imaginer l'effet que la beauté, la bonté, la douceur ont sur notre équilibre.
Alors vous, qui maîtrisez parfaitement notre langue, j'ai une question à vous poser. Je réfléchis, j'ai cette question qui est arrivée au cours de cette conversation, Florence. On parle du mot rêver dans la langue française. C'est utilisé dans la langue française, dans le vocabulaire courant, dans le sens « je rêve d'être acteur de cinéma, je rêve d'être influenceur avec 20 millions de vues ». Ce qui signifie que l'on veut quelque chose, que l'on se projette. Je rêve, je veux projeter. Alors qu'en réalité, dans toute la définition, dans ce que je vois, dans ce que vous nous expliquez, le rêve c'est en fait une projection que l'on reçoit. Alors que dans le vocabulaire courant, le rêve est un désir. C'est la pièce de théâtre que l'on écrit.
Alors, les deux peuvent se rejoindre.
C'est l'opposé.
Si c'est dans notre mission de vie, mission d'âme, si c'est dans notre cœur véritable, parce que l'âme et le cœur, pour moi, c'est la même chose, d'aller dans telle direction, je pense qu'on peut, on peut l'imaginer en rêve, on peut rêver de cela. Et on peut avoir un rêve de vivre, je ne sais pas, parmi les animaux. J'imagine Jane Goodall, elle a peut-être eu envie de vivre dans la nature sauvage.
On peut avoir un rêve, comme si on peut avoir reçu un rêve. Puisque c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas.
On peut avoir reçu un
rêve,
mais...
Je ne peux pas m'endormir en me disant, je vais rêver cette nuit d'être Marlon Brando, d'être James Dean.
Non, mais parfois, les deux peuvent se rejoindre. Jung, qui avait assez peu de support visuel, télévision, série Netflix, téléphone, lumière bleue, enfin bref, qui était dans une vraie recherche très spirituelle, qui lisait énormément de textes sur les civilisations anciennes, relate des rêves qui sont... réellement lié à ce qu'il passionnait dans la journée. C'est-à-dire qu'il faisait des rêves où il était dans des... Oh, c'était magnifique, dans des palais d'or avec des rubis ou qui étincelaient dans les coins. Enfin bon, voilà, il faisait des cathédrales de marbre. Enfin, il avait des rêves qui correspondaient à ce qui l'animait toute la journée. Donc je pense qu'il y a aussi une correspondance entre ce qu'on vit, ce que l'on veut, ce que l'on veut mettre dans sa vie et nos rêves. On ne le contrôle pas, je suis d'accord avec vous, on ne contrôle pas les rêves qui arrivent, mais on peut ouvrir... à certains rêves où on peut les accueillir davantage. Et moi, j'observe que quand les personnes, par exemple, au début de leur vie, ont parfois de leur jeune vie d'adulte, viennent me voir avec des tensions très fortes, des nœuds non résolus, des problèmes transgénéalogiques ou des choses qui les obsèdent, elles font très souvent des cauchemars. Et au fil du temps, du travail bien sûr, ces cauchemars s'estompent. Et là, les rêves s'ouvrent sur des paysages beaucoup plus avenants. On a souvent vu cela. Donc en fait, on ne contrôle pas son rêve, mais on conditionne le type de rêve qu'on fait par son cheminement.
Vous me guidez sur les cauchemars. Je rappelle que j'ai le plaisir d'être avec Florence Lautredoux. Vous êtes psychanalyste et vous publiez « La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves » au sein de la prestigieuse maison d'édition Odile Jacob. Et vous êtes de la région aussi, Florence Lautredoux.
Oui.
Ah, je ne l'ai pas dit au début. Hein,
mais voilà. Oui.
Vous habitez au Pouliguen.
Oui, j'adore.
Vous avez parlé des cauchemars, justement. C'est intéressant, la différence entre le rêve et le cauchemar. Donc on le sait tous, bon, le cauchemar c'est la mauvaise nouvelle, on se réveille, etc. On voit des choses horribles, le rêve, on voit des très belles choses. C'est le paradis et l'enfer finalement qui se bousculent dans notre cerveau.
Bah, le cauchemar en fait il peut être positif paradoxalement. C'est parce qu'il exprime une tension. Alors avec aussi des cauchemars récurrents que tout le monde a, depuis le cauchemar le plus doux où vous êtes tout nu en salle de classe en train de présenter votre exposé ou... à des cauchemars d'agression où une personne va rentrer chez vous et vous n'arrivez pas à crier. Enfin voilà, il y a des cauchemars assez communs et puis il y a des cauchemars très individuels et très pénibles dont on se réveille en sueur, en hurlant, paniqué, le cœur qui bat. Mais ça peut être positif dans la mesure où ça vous exprime une angoisse, une peur et il vaut mieux qu'elle sorte plutôt qu'elle ne sorte pas et qu'elle ronge petit à petit et que soit on se résigne à vivre dans cette peur et donc on se réduit, soit on se réduit finalement. Quand on ne regarde pas, quand on n'affronte pas, on se réduit puisqu'on essaie de se faire tout petit. Donc moi je considère que les cauchemars, ça vaut le coup de les regarder, voire peut-être même d'y retourner.
Dans sa réflexion,
voire aussi en hypnose, on peut parfois faire revenir, moi il m'est arrivé de... Mais j'y vais avec la personne. Au sens où je lui dis, voilà, on va faire une hypnose sur un... Il y a un cauchemar, je vous propose d'y aller, mais je vais avec vous. Alors, évidemment, il ne va pas me voir dans son cauchemar, mais je l'accompagne. Et la personne réaffronte, typiquement, elle est chez elle, elle sent quelqu'un qui est en train de passer la main par-dessus la rambarde de la fenêtre, qui est en train d'entrer, et plutôt que de rester sans voix et se réveiller en panique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et la personne elle-même refait un scénario libre, mais elle se sent soutenue. Et
quelqu'un qui se noie dans son travail peut faire un cauchemar qu'il est noyé, vous le dites à un moment.
Ah oui, tout
ça,
à fait.
Ça, c'est dans le livre.
Oui, tout à fait. Ah oui, absolument. La personne est noyée, est en train de suffoquer. Limite, si on ne lui pose pas un pied sur la tête, vous savez, pour bien la couler. Quoi. Oui, bien sûr. Ce rêve-là, moi, je l'ai fait. C'était à un moment donné un sentiment. Moi, il y avait quelqu'un qui me mettait un pied sur la tête, en plus, histoire de bien me noyer. C'était symbolique. Hein. C'était moi-même, sans doute, qui me mettait un pied sur la tête, mais en tout cas, j'étais en train d'étouffer. Bien sûr, on peut faire ce genre de cauchemar, mais justement, au réveil, on se dit, attends, là, il y a péril de mort. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça nous permet de réajuster notre vie. En fait, la passerelle, c'est que les rêves ne sont pas des productions démentes sollicitées par notre cerveau qui ne servent à rien. Parfois, cela peut être utile de prendre en considération un rêve, surtout s'il est effrayant, et de se dire « Ok, il y a un péril très fort qui met mon équilibre en danger, qui me fait très peur, ou qui me met extrêmement mal, ou qui me donne l'impression que je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce que je peux faire ?» Moi je me souviens un jour, c'était une cliente qui il y a longtemps qui n'arrêtait pas de voir, c'était terrible, en plus c'était quelqu'un qui venait d'une région côtière, pas la nôtre, une région plus rude, et elle faisait sans arrêt le rêve où il y avait un petit enfant qui essayait de sortir de l'eau et qui n'y parvenait pas et qui terminait ses jours, mais un petit enfant de 3-4 ans, allongé sur la grève. Donc c'était épouvantable, elle arrivait, elle hurlait, elle n'arrivait pas à le ranimer. Bon, rêve terrible, là cauchemar. Et en fait, petit à petit, elle s'est rendue compte que ce petit enfant, c'était aussi son enfant antérieur, c'était une partie d'elle-même qu'elle soignait très mal. Mmh. Elle a commencé à se gratifier, ou en tout cas gratifier la partie enfantine d'elle qui souffrait de son contexte personnel, familial, professionnel. Et ce rêve, à un moment donné, elle est arrivée, la petite fille, elle l'a ranimée, et la petite fille s'est mise à rire, elle l'a prise dans les bras, elles se sont fondues en une seule personne, et c'était ça son rêve. Ben, ça s'appelle un rêve qu'elle a confronté, qui est revenu, et qui a disparu après. Oui, donc ça peut être aussi une guidance dans nos vies. Ça peut nous aider à résoudre des névroses ou des problématiques, les rêves.
Alors, il y a un point que vous n'abordez pas dans votre livre, c'est, je me suis souvent posé cette question sur la durée des rêves, l'espace-temps du rêve. Il m'est arrivé de faire un rêve ou un cauchemar, peu importe, j'ai l'impression que ça dure une éternité, que c'est très long, que j'ai passé plusieurs jours. Je me réveille. Et il est à peine 1h du matin, alors que je me suis couché à 23h, qu'il s'est passé une petite demi-heure ou trois.
Ouais.
Ça s'est fait très vite.
Et votre rêve a peut-être duré quelques minutes ou quelques
alors,
secondes.
Alors que dans cet espace-temps du rêve, l'histoire était très longue.
Mais ça, c'est là où la science, quand le temps n'existe pas, disent les scientifiques, et là je suis
la
incapable
science est
de commenter.
Là.
Elle dit la science, le temps n'existe pas. C'est voilà, enfin bon, la relativité, le temps n'existe pas. Je serais incapable, c'est pour ça que moi je serais incapable d'élaborer là-dessus. Mais je le sais, les scientifiques le disent. Et effectivement, le rêve nous plonge dans cet état-là puisque on a l'impression que ça peut durer très longtemps et que ça a duré peut-être 1 minute 30 secondes. Donc il y a une distorsion du temps qui, semble-t-il, est la réalité du temps. C'est-à-dire qu'on sort du chronos, vous savez, ce temps linéaire, on passe dans un temps, je ne sais pas si c'est le kairos, ou c'est, enfin un temps magique. Et ça, je trouve ça fascinant aussi.
Alors, je vais vous poser des questions maintenant, un peu stupides, Florence Lautrétoux, des questions de science-fiction comme ça. Est-ce que le rêve peut être une sorte de voie de communication avec une autre dimension ?
Alors moi je l'ai expérimenté, donc j'aurais tendance à dire oui. Et puis surtout j'ai lu beaucoup de livres d'autres personnes qui l'ont expérimenté, que ce soit Elisabeth Kubler-Ross, hein, la spécialiste du deuil, une américaine qui a consacré sa vie à justement se demander ce qui se passait de l'autre côté, en passant par Newton, Michael Newton, une personne qui a beaucoup travaillé sur l'autre monde. Enfin, il y a énormément de...
Des mondes parallèles.
Des médecins et des psychiatres. Docteur Charbonnier a travaillé sur ses états. Enfin, beaucoup de médecins se sont très sérieusement intéressés à ça.
Sur la vie après la mort, surtout.
Tout à fait. Oui, sauf que la vie après la mort, justement, comme elle est dans un autre espace-temps, il arrive, enfin en tout cas moi j'ai beaucoup lu et entendu et vécu cela, enfin pas beaucoup malheureusement, heureusement plutôt, mais je l'ai vécu. On dort et à ce moment-là, une personne disparue, surtout au début d'ailleurs, comme si elle avait besoin de nous rassurer, vient nous voir et dans des cadres ou avec des phrases ou des réalités qui sont réelles. Donc ça, c'est vraiment elle qui nous dit quelque chose sur « tiens, j'ai laissé ça dans tel endroit ». On vérifie qu'elle a effectivement laissé un document dans tel endroit dont on ne savait pas l'existence, on ne connaissait pas l'existence. Et donc oui, je pense qu'on peut, pour moi, on peut entrer en connexion avec les défunts par le rêve, oui. C'est ce que pensent aussi les...
Ah ben vous avez précédé la question que j'allais vous poser, la deuxième. Je vous ai parlé. Est-ce que le rêve, c'est aussi une connexion avec l'invisible ?
Je pense. C'est pour ça que c'est, par exemple, pour les bouddhistes, notamment dans la branche Bon, B-O-N, du bouddhisme tibétain, bien mourir... Enfin, c'est important de faire attention à ses rêves et de travailler dessus, enfin de travailler, d'être attentif, parce que ça permettra de bien mourir... Ça permettra ensuite d'avoir une bonne réincarnation. Bon, ils pensent qu'on se réincarne. Mais il y a vraiment une école du rêve. C'est quelque chose qui se considère très sérieusement dans sa vie parce que cela nous permettra d'aller dans des espaces beaucoup plus agréables et aussi de venir voir ceux qui sont encore vivants et qui s'inquiètent de nous. Et
peut-être que les rêves nous permettent aussi parfois d'avoir des connexions avec nos vies passées.
Oui, tout à fait. C'est très étrange. J'ai une cliente qui me disait qu'elle a l'impression... Quand elle sort de ses rêves, elle me dit « mais c'est, je sors d'outre-tombe ». C'est marrant l'expression. Elle me dit j'ai beaucoup de mal à m'en remettre parce que j'ai l'impression que c'est très décalé par rapport à ce que je vis. Et je pense que oui, les rêves peuvent nous ramener à des vies antérieures, si on y croit. Ou en tout cas des espaces qui ne sont pas ceux de cette réalité-ci, c'est évident. C'est évident, il y a des choses très étranges et en même temps très réelles. C'est ça qui est... Et puis il y a aussi des magies de découverte. Hein. Toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites pendant les rêves. Mendeleïev, le tableau des éléments. Ce scientifique russe, début du 19e, je crois, ou fin du 19e, il l'a trouvé à la faveur d'un rêve. Thomas Edison, 1084 brevets, je crois, il a trouvé beaucoup de ses inventions, l'électricité, la prise de son, enfin bon, j'en oublie évidemment, sur les 1084, à la faveur de rêves. Mais lui, il faisait des micro-siestes en plus. Il savait qu'il allait avoir des insights, comme on dit, des évidences, des connaissances. Donc en fait, il avait une pièce ou une cuillère, enfin bref, et dès que ça tintait, donc c'était tombé sur le sol, il se réveillait. Et il notait très vite ses rêves. Non, il y a beaucoup de choses qui...
Les anges nous parlent ? Dieu nous parle peut-être à travers...
Alors, moi je pense que parfois on peut avoir, je ne sais pas si c'est Dieu, mais en tout cas des...
Les anges, j'ai commencé. Voilà.
Ouais, je pense que ça peut être... Alors, c'est pas toujours... Parfois ça peut être des mots, mais parfois ça peut être des caresses. Moi un jour j'étais dans un état de grande détresse, et j'ai clairement senti, vraiment, c'était très très doux, j'ai senti que... Et j'étais seule dans ce lit de détresse, et j'ai senti qu'une main très douce me caressait la joue, et je l'ai senti. Et c'était mes... 1000 fois plus doux qu'une caresse humaine. Enfin, il y a quelque chose, c'était la bonté pure, quoi. Et je sais que je n'ai pas rêvé. Enfin, pour le coup, si, j'ai rêvé, mais en tout cas, c'était ailleurs. Oui, il y a des messages très étranges. Très étranges.
Vous dites, pourquoi le rêve est tabou, finalement, comme la mort ? Parce qu'est-ce qu'on rejette dans nos sociétés occidentales tout ce qui n'est pas carré, quoi ?
Tout ce qui n'est pas carré, le rêve n'est pas contrôlable, c'est très agaçant. C'est très agaçant. Donc, pour beaucoup de personnes, le rêve n'est pas contrôlable. Le rêve n'est pas explicable. Le rêve peut vous dire des choses très désagréables. Vous pouvez rêver, je sais pas quoi, vous avez un entretien d'évaluation avec quelqu'un un matin et vous pouvez très bien rêver que vous avez une nuit d'amour torride avec lui, vous avez du mal à regarder la personne dans les yeux. Ça arrive à des tas de gens, ce genre de choses. Voilà, donc en fait, il y a une notion d'intime. Au sens où on ne va pas se montrer nos intestins, quoi. C'est quelque chose qui est de l'ordre du secret, de l'intime, attaché au rêve. Et parfois, c'est effectivement très pertinent. Il vaut mieux pas dire ce qu'on a rêvé la nuit. Donc, il y a une pudeur. Et puis, beaucoup de gens aussi ne respectent pas le rêve. Pour eux, ce sont des foutaises, des bivesées, comme on dit. Ça n'a aucun intérêt. C'est dément, c'est délirant. Surtout les gens, les très sérieux. Comment moi, qui suis si important, si sérieux, je puis faire des rêves aussi stupides, désordonnés.
Voyons, je suis directeur du marketing international.
Ça ne va pas du tout, ça. Non, donc c'est pour ça que c'est souvent discrédité. C'est pour les fadas, ou c'est pour les enfants, ou c'est pour ceux qui ont le temps de ça. Très souvent, d'ailleurs, quand vous parlez à des... Moi, je parle à certains clients en coaching, la réaction, c'est... vous vous rappelez, mais non, pas du tout, j'ai pas le temps. Ah ok, vous n'avez pas le temps de vous rappeler vos rêves. Non, voilà, non, j'ai pas le temps.
J'ai une visio avec New York.
Oui. Ça prend la bande passante.
Est-ce que les rêves sont en quelque sorte les gardiens de l'âme? Si on fait une distinction entre l'âme et le corps, que l'on doit rendre, le corps va vieillir, voilà, et puis partir, l'âme, elle reste intacte, l'âme.
Oui, et c'est ça qui est très beau.
Elle reste intacte. Pour moi, bien qu'on doit essayer de rendre son corps en bon état, voilà, essayer de se l'entretenir. Voilà.
Oui, pour que son âme ait envie d'y rester, c'est ça. Voilà. S'il n'est pas en bon état, l'âme se dit, bof, pas terrible le véhicule. Pourquoi pas? Moi, je considère
ça, j'y crois.
Bah oui.
Ah oui?
Ah bah oui. Oui, bah oui, il vaut mieux effectivement, parce que l'âme a des désirs, des envies. Donc si le corps n'est plus en état de porter ses envies, s'il ne peut plus vivre ce que l'âme aime, marcher, prendre des gens dans ses bras, à un moment donné, l'âme dit, écoute, tu sais quoi, on va peut-être arrêter là et voilà.
Je vais voir ailleurs.
Voilà. Corps. Mais pour moi, les rêves sont des messagers de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, notre âme nous envoie des messages à travers nos rêves. Notre âme, c'est notre... Alors, après, il y a plein de définitions. Hein. Bien évidemment, je ne prétendrai pas en avoir une ici. Mais pour moi, c'est lié au cœur, c'est lié à ce qu'on ressent, c'est à nos désirs profonds. Quelque chose qui, parfois, est plus grand que nous aussi. Et ce qui est plus grand que nous, beaucoup de grands hommes qui ont eu des grands gestes expriment que ça a été à la faveur d'un rêve. Il y a de très belles chaussons aussi, inspirées par les rêves. Hein. Let it be, Paul McCartney, il le dit, il s'est réveillé un matin. Il s'est réveillé un matin et il avait son clavier à côté, puisque c'est un musicien, il dormait en vrac à côté de ses instruments de musique, en l'occurrence de son piano. Et il a tout de suite, la mélodie est assez simple, mais il a tout de suite joué. Et en même temps qu'il jouait, c'est comme s'il downloadait les paroles. Et donc il était avec une main en train de faire la piste musicale, qui est assez simple, hein, c'est une grille plutôt simple, et de l'autre, il notait les paroles de Let It Be, qui est une chanson totalement inspirée, totalement mystique, totalement magnifique. Enfin, on peut tout à fait imaginer qu'un ange ait choisi Paul McCartney pour chanter cette chanson qui est toujours écoutée aujourd'hui, 50 ans après? Ou peut-être 50 ans, c'est ça, les années 70.
Je vais rester, oui, sur votre grille.
Voilà, un demi-siècle. Un demi-siècle après, il y a quelque chose qui est parti. Là aussi, c'est des messages pour le grand public aussi. Et ce sont des rêves. Et lui, il le dit, c'est un rêve. Il l'a écrit, c'est un rêve qui lui a inspiré cela.
Merci Florence Lautredoux de nous avoir parlé de votre livre. Ça s'appelle « La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves ». J'ai envie de dire que ce livre est très touchant. Il se lit. Alors, c'est pas un livre vraiment écrit avec prétention, un livre très complexe, scientifique. Non, c'est vraiment un livre qui est écrit comme un roman. Mmh. C'est une histoire que vous racontez. On devine que vous avez beaucoup de points communs avec l'héroïne de cette histoire. Mmh. Et donc c'est une fiction, mais en fait la fiction est aussi le prétexte à la transmission.
Oui, c'est une fiction avec trois amis. Effectivement, l'héroïne est une psy et coach, donc évidemment, elle observe beaucoup ses contemporains, donc elle a certainement des points communs avec moi. Et elle a deux amis. Elle a une publicitaire et elle a un coach sportif, qui sont trois métiers extrêmement urbains. Et leur amitié, elle a aussi quelque chose autour du rêve collectif. Chacun est bloqué dans sa vie et a des cauchemars, pour le coup, toujours assez récurrents, qui ne permettent pas de sortir de, du blocage. Et en fait, par le cheminement qu'ils font tous les trois en s'aidant les uns les autres, et les rêves les aident, ils se débarrassent de ces blocages et qui les condamnent à des vies de peur, de tristesse, de culpabilité. En fait, c'est les trois grandes émotions qui les bloquent chacun. Et c'est à la fois leur rêve et ce qu'ils font de leur rêve ensemble, parce qu'ils s'en parlent, ils finissent par s'en parler à la fin. Et il y a un dénouement, c'est en fait une sorte de polar autour des rêves. Et effectivement, je l'ai écrit de façon simple, parce que je considère qu'à un moment donné, la vérité passe mieux comme ça.
Merci Florence Lautredou. La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, c'est publié aux éditions Odile Jacob. Florence Lautredou, je rappelle que vous êtes normalienne, agrégée de lettres modernes et psychanalyste et coach en entreprise. Vous êtes pouligano-parisienne ou parisiano-pouliganaise.
Oui, c'est ça, les deux. J'aime ces deux endroits, donc je me partage.
Merci Florence.
Merci Yannick.